nzamba
nzambira samirana
Nous sommes mercredi 8 septembre 2021. Vous êtes bien sur la radio Nzamba Agathe Kakawe. C'est l'heure du journal en français, dont voici d'abord les principales articulations. Deux militaires congolais en patrouille dans les eaux du lac Tanganyika ont été tués par erreur hier par la marine burundaise. Ces deux militaires ont été confondus à des malfaiteurs. La prison a perpétué une amende de 60 millions de francs burundais. C'est la peine prononcée aujourd'hui contre un militaire du 312e bataillon d'infanterie à Gitiranyi. Nous sommes dans la province Muyinga au nord du pays. Il est accusé de crimes de sang. Et puis la commission Vérité et Réconciliation appelle les présumés auteurs des crimes de 1972 à demander pardon aux familles des victimes. C'est une méthodologie inefficace, selon Frédéric Mambouguignouvila, il est président de la coalition politique CEFOR. Il dit qu'on ne force jamais le pardon. Voilà pour le sommaire. À la présentation, Alexandre Liungeko, soyez les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Pour commencer ce journal, cette nouvelle brève, la famille d'Isidore Naumvuki est membre du parti CNL sur la colline Dunga dans la commune Kayogoro de la province de Makamba. Nous sommes au sud du pays, a échappé belle lors d'un incendie criminel. Les faits se sont passés la nuit de ce mardi à mercredi vers 3h du matin. Selon une source administrative, les criminels ont mis le feu sur la maison de la famille de ce membre du CNL. Elle s'en est tirée avec quelques blessures légères. Deux militants du CNDD-FDD soupçonnés de ce crime sont déjà dans les mains de la police à Kibabo. Et deux militaires congolais ont été tués dans la matinée de ce mardi dans le lac Tanganyika, dans la localité de Minago. Nous sommes dans la commune et province de Rumonge, au sud-ouest du pays. Selon le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, au sud Kivu, le capitaine Dieudonné Kaseleka. Ces deux militaires étaient des éléments de la marine congolaise qui faisaient des patrouilles de reconnaissance pour traquer les bandits qui perturbaient la sécurité des deux pays en passant par le lac Tanganyika. Il parle d'un incident entre l'armée burundaise et l'armée congolaise. Le point avec Blaise Nijimbere.
L'intervention de l'armée congolaise vient pour lever la confusion sur l'identité de deux personnes tuées par la marine burundaise dans l'aube de ce mardi. Les habitants de Minago disaient ne pas avoir reconnu les victimes des fusillades entre l'armée burundaise et un groupe d'hommes armés, probablement des bandits. L'armée congolaise reconnaît qu'il s'agit bien de ces hommes, comme le confirme le capitaine Dieudonné Kaseleka, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo au sud de Kivu.
Vous savez que les militaires de la marine congolaise étaient en patrouille de reconnaissance quand ils ont été confondus aux bandits armés. Parce que vous savez, sur le lac Tanganyika, il y a des armées qui utilisent le lac Tanganyika pour traverser vers Burundi ou vers le Congo. C'est comme ça qu'il y a eu cet incident, mais ce n'est pas un incident qui a été préparé. Ça ne met pas à mal les relations burundo-congolaises. Il y a eu confusion sur le lac Tanganyika, il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas de la communication entre les deux armées. C'est comme ça que cet incident est lié.
Le capitaine Kaseleka indique que cela ne va pas avoir aucun impact sur les bonnes relations qui existent entre le Burundi et le Congo parce qu'il s'agit d'un incident causé par le manque de communication entre les deux armées. Il ajoute pareil que les autorités sont pour le moment en contact pour gérer ensemble cet incident.
Ce n'est pas grave, les autorités au plus haut niveau sont en train de travailler pour que cela ne pas gâcher les relations qui sont entre les Congo et le Burundi. Mais ce n'était pas préparé et ça ne met pas en mal la relation qui est entre le Burundi et le Congo.
C'est là toujours le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo au sud que vous, et parmi ces militaires a été capturé, mais tranquille qu'il sera bientôt remis. La radio Nzamba a contacté le colonel Floribert Wiereke, porte-parole de l'armée burundaise, pour d'autres détails sur cet incident, mais il n'a pas répondu à notre appel.
Et puis la peine a perpétué une amende de 60 millions de francs burundais pour dommages et intérêts, telle est la sentence prononcée par l'auditorat militaire contre le soldat de deuxième classe Olivier Niyomongele du 312e bataillon d'infanterie Accusé d'avoir tué avec son arme de service une personne et blessant des autres, le procès a eu lieu à Gitélani dans l'après-midi de ce mardi. Plus de détails avec Raoul Nienguruz.
Une peine de réclusion criminelle, le paiement des dommages et intérêts équivalent à 60 millions de dédommagements, telle est la peine infligée mardi au soldat de deuxième classe Olivier Niomongere du 312e bataillon de Gitélani. Le deuxième classe Niomongere Olivier était accusé d'avoir tué une personne et blessant deux autres avec son arme de service, selon les sources concordantes à Gitélani. L'auditorat militaire en itinérance à Gitélani, lieu de la commission de l'infraction, accusé le soldat de deuxième classe Olivier Niomongere de meurtre et de blessures graves sur des innocents dans la nuit du dimanche dernier sur la colline Mugano en commune Gitélani, province de Muyinga. Après avoir écouté le prévenu défendre ses dires, le tribunal l'a condamné à un emprisonnement à vie et au paiement de 60 millions de dédommagements aux victimes et ayant droit, indique-t-on. Si le condamné ne paye pas cette somme de 60 millions, il subira une contrainte par corps de 300 ans, selon la même source. La rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore eu les plaidoiries de l'accusé ni celles de son avocat.
Merci Raoul. La commission Vérité et Réconciliation invite les présumés auteurs de crimes commis en 1972 à demander pardon aux familles des victimes. C'est un appel lancé ce mardi dans la zone routière de la mairie de Bujumbura par le président de cette commission, Kile Claver Ndaïchalié. C'était à l'occasion de la présentation des résultats des enquêtes sur les crimes commis à la mairie de Bujumbura en 1972. Pour Frédéric Vambouguignouvilla, président de la coalition de l'opposition politique, c'est pour Arusha. On ne force jamais quelqu'un à demander pardon. Il trouve que la solution de la sévère n'est pas du tout efficace. Le point avec Josephine Jones. Mundiman.
La commission Vérité et Réconciliation encourage les présumés auteurs des crimes qui ont endeuillé le Burundi, dont ceux de 1972, de demander publiquement pardon. Pierre Claver Ndaïchalié, le président de cette commission, indique que des audiences publiques vont être bientôt organisées pour donner la parole à ceux qui veulent s'exprimer publiquement.
La commission Vérité et Réconciliation interpelle ceux qui veulent demander pardon aux familles des victimes, comme nous l'avons constaté dans le diocèse catholique de Luigi à la paroisse Rusengo. Nous avons suivi avec intérêt ceux qui ont demandé pardon et ceux qui l'ont accordé. Demander pardon est un long chemin, mais nécessaire pour tous. La CVR va organiser bientôt des audiences publiques pour donner la parole à ceux qui veulent l'apprendre, mais pour ceux qui ont accepté de demander pardon publiquement, ils ne seront pas concernés par ces audiences car ils auront manifesté un profil bas devant Dieu et devant les familles des victimes.
Frédéric Mvuguignouvilla, le président de la coalition Sephora Arusha, trouve que c'est une manœuvre du parti CNDD-FDD pour pouvoir cacher des crimes commis par son parti. Il indique que demander pardon est une affaire personnelle.
La CVR est en train de faire une fuite en avant en cherchant à imposer ce pardon par force, comme si c'est quelque chose qui doit se forcer. Mais non, le pardon, c'est une affaire personnelle, c'est l'initiative personnelle. Et on ne doit pas organiser des séances publiques et comme ça pour que justement les gens peut-être aient un sentiment de peur. Et non, il faut en disant, voilà, celui qui va le faire de façon cachée, il ne sera pas concerné par les histoires publiques. Et ça n'a rien à voir. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de savoir justement qui a fait quoi. Or, le parti CNDD-FDD étant impliqué dans les crises qu'on a observées dans le pays, il a peur d'être accusé. Et il a fait tout et refusé que cette commission d'enquête judiciaire puisse exister pour que justement la vérité n'éclate jamais au grand jour. Seulement, il met en avant le pardon. C'est une fuite en avant.
Rappelons que ce mercredi 8 septembre, la CVR a poursuivi ses enquêtes dans les provinces de Muramvya et Mwaro.
Merci bien Jones. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Capitoline Lionizigi, a donné des explications sur la pénurie du ciment à l'usine de Boudiseko ce mardi lors des questions orales à l'Assemblée nationale. Pour elle, la cause serait le nombre croissant des chantiers d'infrastructures publiques à travers tout le pays. Un argument non convaincant selon l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Gabriel Rufsili, président de l'Olicom, trouve que la raison principale, c'est le manque de devises pour importer les matières premières, mais aussi le climat des affaires qui n'est pas du tout propice pour les commerçants de ciment. Les détails avec Benny Axel Akana.
À l'origine de cette pénurie du ciment, un nombre croissant de chantiers d'infrastructures publiques à travers tout le pays a confirmé le ministre du Commerce et l'Industrie, Capitoline Nyonizigiye, ce mardi, devant les élus du peuple. Le manque criant du ciment de l'usine se fait observer sur tout le territoire national.
Je vous apprends que le ciment produit par l'usine Bousseco ne peut pas satisfaire les demandeurs dans tout le pays. Ces derniers jours, on est en train de construire des infrastructures publiques dans tout le pays. On observe des chantiers d'écoles et d'hôpitaux, ainsi que des terrains de jeu, d'où l'origine de cette pénurie du ciment. Mais on est en train de faire l'extension de cette usine. La production sera suffisante dans les jours à venir et on aura même un surplus pour exporter ailleurs.
Gabriel Lufidi, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM en SIGS, rejette en bloc cet argument. Pour lui, la raison principale est le manque de devises pour importer les matières premières contribuant à la production du ciment de l'usine Bousseco.
Qui demande les devises, la monnaie étrangère, surtout les dollars et les euros? Il est clair que tous ces produits sont introuvables ici au Burundi. Voilà pourquoi l'OLICOM pense que la cause principale, c'est vraiment la rareté des devises.
Aussi, le climat des affaires n'est pas favorable aux commerçants du ciment. Gabriel Ufidi.
L'environnement des affaires qui n'est pas propice, les commerçants honnêtes, les opérateurs économiques honnêtes ne peuvent pas gagner des marchés de façon honnête. Donc, dans ce cas-là, vous comprenez que beaucoup de gens fouillent ce secteur. Donc, c'est la loi du prix fort qui joue. Là, c'est un élément important qui cause la pénurie parce que les commerçants honnêtes n'osent pas aller dans ce domaine.
Ces derniers jours, le ciment produit par Bousseco est introuvable dans les magasins de matériaux de construction dans tout le pays. Les acheteurs y voient une spéculation des commerçants. Dans différents points de vente de ce matériel de construction, l'on ne voit que le ciment de type Simba qui est importé de la Tanzanie voisin.
La situation de pénurie du carburant dans certains coins du pays préoccupe les parents d'élèves. Ils font remarquer que les déplacements de leurs enfants vers les écoles à régime d'internat ne seront pas faciles. En effet, la rentrée scolaire prévue le 13 septembre prochain intervient au moment où le pays fait face à l'écarence du carburant depuis près d'un mois. Les parents réclament une réponse rapide à cette pénurie avant la rentrée pour éviter d'éventuels désagréments. Ils s'expriment au micro de la radio Inzab.
Nous ne voyons pas comment nos enfants vont quitter la province de Cibitoki et la province de Gitega parce qu'on observe ici et là la hausse du prix et de déplacement suite à cette carence du carburant. Nous faisons appel au gouvernement de régler cette importante question le plus tôt possible.
Mais où la rentrée scolaire n'est pas variée, les élèves qui se déplacent vers les internats où ils étudient vont être victimes de cette pénurie. Nous demandons au gouvernement, et malgré que le porte-parole s'exprimait hier en disant qu'il ne voit pas la solution sur ce problème, que le gouvernement burundais fournisse d'efforts afin que le carburant soit disponible. Sinon, de quel moyen vont-ils se déplacer dans les écoles et cela va avoir des répercussions sur l'année scolaire 2021-2022.
Le manque de carburant va faire beaucoup de conséquences. Beaucoup de familles vont envoyer leurs enfants à l'école à partir de ce lundi. Avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer, les prix vont augmenter. Nous demandons au ministère chargé du commerce de fixer les prix. Alors il faut que l'État burundais en général et le ministère chargé du commerce en particulier font tout pour que les devises soient à la disposition de ces opérateurs économiques qui ont choisi de faire du commerce du carburant.
Inzamba. L'association chrétienne pour l'abolition de la torture ACAT Burundi se dit inquiète de la violation des droits des prisonniers. Cette organisation dénonce notamment le fait que les détenus n'ont plus droit aux visites suite au Covid-19. Elle recommande à la Direction générale des affaires pénitentiaires de rectifier le tir pour que ce droit soit respecté pour les prisonniers. Maître Jean-Claude Niburumusi, il est président du département juridique au sein de la CAT Burundi.
Le droit à la communication des personnes privées de liberté avec l'extérieur est un droit reconnu par les textes régissant la protection des prisonniers, tant au niveau interne qu'à l'échelle internationale. Malgré cette exigence légale, il y a plus d'une année, la Direction générale des affaires pénitentiaires du Burundi a suspendu les visites dans toutes les prisons du Burundi, arguant que c'est dans l'objectif d'éviter la propagation du virus dans les établissements pénitentiaires. Cependant, la mise en œuvre de cette mesure barrière reste considérablement à désirer et les prisonniers en sont profondément préoccupés. En effet, certains détenus, ce qu'on appelle les prisonniers libres, les policiers et le personnel de la prison sortent et entrent dans la prison sans observer aucune geste barrière. Bien plus, les nouveaux détenus sont installés dans les mêmes cellules que les anciens sans qu'ils ne soient mis en quarantaine ou soumis à un test de dépistage pour se rassurer qu'ils ne sont pas porteurs du virus. Ici est de rappeler que ces derniers temps, les prisonniers se lamentent qu'ils n'aient plus accès à leur avocat en temps réel. Face à cette situation, ACAT Burundi recommande l'autorité judiciaire d'y remédier en accordant à tous les détenus le droit d'accès aux visites dans l'intérêt des familles, mais en appliquant de manière rigoureuse et systématique les mesures barrières afin d'éviter effectivement la propagation du virus. ACAT Burundi recommande également au CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui a mis en place un appareil téléphonique dans certains établissements pénitentiaires pour faciliter la communication avec leurs familles, de projeter une installation de plusieurs cabines téléphoniques à l'intérieur des prisons pour que tout détenu ait accès facile à la communication.
Une somme qui valait 310 000 francs burundais a été bel et bien remise à la famille d'Aaron Nichizanye, comme l'avait promis à la radio Inzamba Gatekakawe le docteur Révérend Gilbert Kiwinakanwa. Il est médecin directeur de l'hôpital de Kibuye. Comme nous l'avions annoncé dans notre édition de ce lundi, l'homme de plus de 70 ans de la zone de Kazirabagenye en commune de Nyanzalake, dans la province de Makamba, au sud du pays, demandait la restitution d'une somme qu'il avait payée à l'hôpital de l'espoir de Kibuye de la province de Gitega pour une opération qu'il avait attendue presque toute une année durant sans succès. Parlons éducation à présent. Le ministère de l'Éducation nationale devrait s'asseoir ensemble avec tous les partenaires de l'éducation afin de trouver des solutions aux mauvais résultats scolaires dans les écoles privées aux examens nationaux à mairie de Bujumbura. C'est le professeur Libera Nibashakandi qui le propose. Il réagit ainsi aux propos du ministre de l'Éducation François Habyarimana qui expliquait hier sur nos antennes ces mauvais résultats en mairie de Bujumbura par l'existence d'une multitude d'écoles privées qui ne respectent pas les mesures du ministère. Libéral du Hachilakani trouve étonnant le fait que la mairie de Bujumbura soit placée dernière à l'examen d'État par rapport aux autres provinces. On l'écoute.
C'est surprenant d'abord que la mairie de Bujumbura se place dernière dans le classement des provinces parce que tout simplement les conditions de travail en mairie de Bujumbura sont de loin meilleures qu'à l'intérieur du pays. Alors, les raisons qui pourraient expliquer ce mauvais classement diraient que peut-être voir si les enseignants qui sont à mairie de Bujumbura sont compétents, sont qualifiés pour donner cours. Est-ce que ce n'est pas politisé? Est-ce qu'ils respectent la consigne, je dirais, universitaire en pédagogie, ce qu'on appelle la triple concordance ou l'alignement pédagogique entre les objectifs, les méthodes qui sont utilisées pour enseigner justement pour atteindre les objectifs et l'évaluation? Donc, ça forme un triangle, il faut une cohérence, une concordance ou l'alignement entre les trois entités, objectif, méthode, évaluation. Bien sûr, il y a l'inspection, est-ce qu'il y a l'inspection des écoles, parce qu'il y en a quand même un département, je dirais, les responsables qui sont chargés de faire l'inspection, vérifier si les écoles respectent justement les enseignements proposés, la façon d'évaluer, etc. Est-ce que l'inspection a fait son travail? Alors, la meilleure façon de procéder, c'est plutôt tous les acteurs concernés par l'enseignement à mairie de Bujumbura, associés aux responsables du ministère et les parents et les syndicats, devraient se mettre autour d'une table et analyser en profondeur les enseignements qui sont dispensés, le profil des enseignants qui donnent cours à mairie de Bujumbura, le profil des écoliers, des élèves aussi, essayer d'approfondir et identifier la raison pour laquelle la mairie de Bujumbura se classe dernière. Et à partir de là, après avoir identifié la raison, proposer des solutions et les mettre en application dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement à Mec de Bujumbura.
Un mot de sport pour boucler ce journal. L'équipe nationale de volleyball du Burundi a perdu son premier match au tournoi du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule au Rwanda dans le stade de Kigali Arena. Le Burundi, sans son entraîneur et ses deux éléments clés de l'équipe testés positifs au Covid-19, a été battu par le Rwanda sur un score de 3-7-0. Les détails avec Josine Taze.
C'était un match compliqué pour les joueurs burundais, mais ces jeunes burundais de l'équipe nationale de volleyball ont montré qu'ils ont un avenir devant eux malgré qu'ils aient perdu ce match. Le premier set a été gagné par le Rwanda par 25 points à 15, le second par 25 à 19 et le dernier par 25 à 14. Pendant ce dernier set, les joueurs burundais avaient lâché puisqu'ils voyaient que gagner était quasi impossible. La préparation des équipes nationales reste un problème très sérieux au Burundi. Cette équipe qui représente le Burundi n'a pas eu de match amicaux et est arrivée au Rwanda à la dernière minute avec un entraîneur sans adjoint. En cette période de Covid-19, il faut être prudent. Après les tests, le coach burundais a été testé positif, ce qui a handicapé sérieusement la formation burundaise pendant la rencontre. À part le coach, deux joueurs ont été également testés positifs. Il s'agit de Ndaifukamiye Eric, alias Gachara, et Weruburundi Donald, deux éléments clés de cette équipe. Tous ces facteurs ont beaucoup pesé pendant cette rencontre. Ce jeudi, le Burundi jouera contre l'Ouganda. Vendredi, le Burundi jouera le troisième match et dernier des groupes contre le Burkina Faso. En 2019, le Burundi avait participé à ce genre de compétition à Tunis, en Tunisie. La formation burundaise a terminé 9e sur les 10 équipes qui avaient pris part à cette compétition. Le Burundi n'a battu que le Botswana. L'équipe nationale féminine est également attendue à Kigali pour disputer le championnat d'Afrique des Nations qui débutera le 10 septembre. Malheureusement, l'équipe burundaise n'est pas encore arrivée au Rwanda au moment où leurs adversaires s'acclimatent déjà à Kigali en attendant le début de la compétition.
Merci Josine, et c'est par ici que se termine ce journal. Merci bien à tous de l'avoir écouté. Merci également à l'équipe de la rédaction pour la collecte de toutes ces informations que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Et je vous souhaite de passer une agréable journée ou une agréable soirée suivant la position de votre écoute. Au revoir et à la prochaine.